matin, je vous invite à ouvrir la Bible. Nous allons ensemble lire deux passages, dont le premier est situé dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Le deuxième passage se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Je répète, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Je vous demanderai de bien vouloir garder la Bible ouverte sur ce texte, car nous allons poursuivre tout à l'heure dans la méditation, et c'est bien que nous puissions suivre dans la Bible. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, c'est un grand privilège, et nous le reconnaissons, que de pouvoir te connaître, alors que Seigneur, nous sommes par nature tellement méchants. Mais toi, Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu ne nous as pas méprisés, mais tu es venu jusqu'à nous. Et comme nous l'avons chanté il y a un instant, grâce te soit rendue au Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à toi, cachés en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour l'espérance qui est la nôtre, mais en même temps, nous te supplions, aide-nous, afin que dans notre marche quotidienne, nous puissions te glorifier comme tu es digne de l'être. Nous ne voulons pas seulement le faire du bout des lèvres, mais par notre vie, par notre comportement. Viens-nous en aide pour que nous puissions mettre en pratique ta parole et à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, suivre Christ, c'est quoi? Voilà le thème de mon message ce matin. Nous avons ici, au travers de ces deux passages que nous venons de lire, le témoignage de deux personnes qui, au départ, se trouvaient dans les mêmes circonstances, ou presque. Cependant, on voit comment l'un a répondu à l'appel de Dieu et combien sa vie a été changée, bouleversée, combien d'un seul coup, devant la magnificence du Seigneur, il s'est trouvé vraiment misérable, infiniment pécheur, et il a tout abandonné entre les mains du Seigneur. Tandis que l'autre a eu aussi la révélation de qui est le Seigneur. Sauf que devant la démarche qui devait être entreprise, il a reculé et il a prouvé par cela même que l'amour pour le Seigneur qu'il prétendait avoir n'était pas réel. Et voyez-vous, ceci m'a fortement interpellé et j'aimerais partager cela très simplement avec vous ce matin. Il est important de noter dans le témoignage rendu par ces deux personnages qu'il y a un contraste au sujet de points qui sont très importants dans la vie chrétienne. Il y a une différence dans la notion de justice. Ça, c'est le premier point. Il y a une différence aussi dans la notion de la croix. Et en troisième point, il y a une différence dans la notion de la gloire. Je crois qu'il n'y a rien qui soit plus beau, plus merveilleux pour un chrétien que d'être revêtu de la justice de Christ. J'ai entendu les louanges ce matin et toutes avaient donc cette expression-là, « Merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés par le moyen de ce sacrifice que tu as accompli en notre faveur sur la croix. » Et notre frère nous a conduits dans ce champ qui mettait en relief d'abord la grande victoire du Seigneur sur la croix. Et nous avons chanté ensemble « Il est Seigneur ». Mais le dire de la bouche, c'est un fait qui est déjà glorieux, mais le prouver par notre soumission à sa volonté, c'est un autre point. Or, la foi ne peut pas aller sans obéissance. La foi qui ne se soumet pas à Dieu n'est pas la véritable foi. La foi, elle marche avec l'obéissance. Alors, voyons un petit peu la réaction d'abord de l'apôtre Paul. Je prendrai en considération ce qu'il dit de lui-même en tant qu'homme naturel. Avez-vous remarqué? Il dit lui-même, « Si je devais me glorifier, je le pourrais. » Effectivement, nous savons tous que Paul a été élevé au pied de ce grand rabbin, célèbre rabbin Gamaliel. Il venait de la ville de Tarse, qui était aussi célèbre pour son université. Nous savons que Paul avait une grande éducation. On peut considérer qu'il était un érudit. Et de plus, il dit qu'il faisait partie des pharisiens. Et je voudrais que vous notiez cette expression « irréprochable au niveau de la loi ». Il dit « né d'hébreu » et tout cela faisait qu'il pouvait très bien s'enorgueillir. Mais il dit quand la révélation de Christ, la lumière a brillé sur mon sentier, alors non seulement d'un seul coup, j'ai pu me rendre compte de qui est Dieu, dans sa magnificence, dans sa sainteté, dans sa gloire, dans son immense amour également. Mais je me suis rendu compte de qui j'étais. Et tout ce qui faisait un sujet de gloire au préalable, il le dit lui-même, d'un seul coup pour moi, c'est de la boue, ça n'a aucune valeur, ça ne représente absolument aucun intérêt. Et il a tout abandonné pour suivre Christ, mais le suivre où? Sur le chemin de la croix. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus tard, il a dit, « Pour moi, maintenant, vivre, c'est Christ, et mourir, m'est un gain. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et on peut comprendre qu'un personnage qui a fait une telle expérience, eh bien, traverse toutes les circonstances de la vie avec, je dirais, une attitude tellement différente de celle que l'on a l'habitude de rencontrer parfois dans la vie de certains chrétiens. Il est un homme qui a connu de grandes souffrances en suivant le Seigneur. Il a connu la maladie, il a connu l'abandon de ses amis, il a connu la trahison, il a connu des passages en prison. Tout cela a été son partage, il a été roué de coups. Toutes ces choses-là ne l'ont jamais empêché de se réjouir dans le Seigneur. Et avez-vous remarqué le chapitre que nous avons lu ce matin dans son épître, débute par cela, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Bien sûr, nous ne pouvons pas nous réjouir dans les circonstances malheureuses. Nous n'avons pas à vraiment être dans la joie concernant les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Peut-être ici même ce matin, quelques frères et sœurs se trouvent dans des circonstances douloureuses. Je ne peux pas tout dire ce matin de ce qu'il y a dans l'existence de chacun d'entre nous. Et nous savons que la vie n'est pas comme, quelqu'un l'a dit, un long fleuve tranquille, mais que la vie comporte de grandes difficultés, de nombreuses épreuves. Mais la parole de Dieu, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, nous exhorte à nous réjouir dans le Seigneur. Parce que lui ne change jamais. Et le Seigneur a dit ceci, « Je suis avec toi dans la détresse. » Bien sûr, nous préférerions qu'il soit écrit « Je suis avec toi hors de la détresse. » Parce que nous ne voudrions pas connaître les moments difficiles. Mais ça, c'est impossible. Si nous suivons Christ, nous devrons affronter des difficultés. Et particulièrement, nous devrons intercepter la route de ceux qui marchent en contradiction avec la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il y en a tellement dans ce monde. Je pense que, comme moi, vous êtes horrifiés en découvrant dans quel sens va notre société, notre humanité. Comme si souvent nous le disons, et vous l'avez entendu tant de fois, ce qui est bien pour nous est considéré comme mal dans ce monde, et ce qui est mal pour nous est considéré comme bien. Et les gens se réjouissent dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous traverser ce monde affreux, désert, sans connaître la souffrance, puisque nous sommes obligés de confronter ces choses-là qui se manifestent dans ce monde, qui gît sous la domination de Satan? Je dirais que sans le secours et l'aide du Saint-Esprit, nul n'est capable d'aller jusqu'au bout et de marcher en vainqueur. Mais nous ne sommes pas des orphelins. Et le Seigneur nous a envoyé le divin consolateur, le Saint-Esprit. Et il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Je rappelle ici le rôle du Saint-Esprit, cela a été présenté par le Seigneur lui-même. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Christ dans notre vie. Il a dit lui-même, il prendra de ce qui est en moi. Et il vous l'annoncera, il vous le révélera. Et c'est ça le miracle quotidien, être vraiment sous cette influence du Saint-Esprit qui nous oriente, nous dirige sur ce chemin qui mène à la croix. Mais nous savons que le chemin de la croix, c'est le chemin de la gloire. Certains voudraient aller à la gloire sans passer par la croix, mais c'est impossible. Il faut que nous puissions être obéissants à Christ. Lui, il sait ce qu'il fait. Et quand nous le suivons, même dans les moments les plus difficiles, il y a quelque chose de bon pour nous, parce que la Bible déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés du Seigneur ». De ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est la raison pour laquelle nous n'avons aucune crainte à avoir. Notre Seigneur est fidèle. Paul l'a compris et il marche en vainqueur. Il suit son Seigneur. Il sait ce qu'il attend, mais il ne recule pas. Pourquoi ? Parce qu'il a devant lui le divin berger. Je vais en parler aussi dans un instant. Maintenant, voyons l'autre personnage. Quelquefois, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit « Oh, j'aurais tellement aimé vivre au temps du Seigneur, le voir de mes propres yeux, être là quand il a ouvert les yeux de l'aveugle, être là quand il a parlé au paralytique et qu'il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » J'aurais voulu entendre toutes ces choses-là. Lui, eh bien, il était là, présent, devant le Seigneur. Il le voyait de ses propres yeux. Qui est ce jeune homme? Eh bien, c'est un chef religieux. C'est l'évangéliste Luc qui nous donne ce détail supplémentaire. Un chef s'approche de Jésus avec cette belle parole. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Notez s'il vous plaît. Que dois-je faire? Il n'a pas dit qui dois-je être pour hériter la vie éternelle. Mais que dois-je faire? Là, c'est cette notion de justice de l'homme qui intervient. Et Jésus le regarde et il lui dit, ben, tu connais les commandements. Est-ce que vous avez noté, frères et sœurs, que c'est une version du décalogue tronqué que le Seigneur lui a donné. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais Jésus ne lui parle pas de ça. Et il lui dit « Tu connais les commandements ? Tu ne commettras pas adultère, tu ne déroberas point, etc. etc. » Et ce garçon, très sincèrement, croyez-le, d'une manière très sincère, il a dit « Mais tout ça, je l'ai accompli depuis ma tendre enfance, depuis ma jeunesse. » Avez-vous remarqué que Jésus ne lui a pas dit « Tu te trompes ?» Nous, nous pouvons dire ce qu'il avait accompli là, il avait accompli d'une manière extérieure. Certainement qu'il disait vrai, extérieurement, oui, mais quant aux vraies motivations de son cœur, non. Parce que nous savons tous comment Jésus, lui, a interprété aussi la loi un peu plus tard. Et, par exemple, ne serait-ce que sur ce passage-là, « Tu ne tueras point. » Jésus dit, « Voilà ce que dit la loi. Mais moi, je vous dis que si dans votre cœur, il y a de la haine où tu dis simplement à ton frère « Raca », ce qui signifie « insensé », tu es digne de la géhenne. Alors on se rend compte là qu'au niveau des motivations, eh bien, qui peut mettre en pratique la loi ? Et ce garçon-là était pourtant convaincu d'être vraiment agréable à Dieu, sauf que pour vraiment obéir à Dieu et obéir à ce qui, dans notre cœur, a un écho particulier, parce que la loi de Dieu, elle a quand même un certain écho dans notre cœur, eh bien, il faut d'abord aimer Dieu par-dessus tout. Parce que c'est lui seul qui peut créer en nous, par l'Esprit Saint, cette possibilité d'obéir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous avons un privilège. Quand nous avons le secours du Saint-Esprit, le monde ne peut pas connaître cela. La chair ne peut pas connaître cela. L'homme naturel ne peut pas connaître cela. Parce qu'il est écrit que la chair est incapable de discerner, d'aimer, d'accepter la volonté de Dieu. C'est une impossibilité. C'est la raison pour laquelle, si nous, nous pouvons dire « Seigneur, je t'aime », eh bien nous sommes heureux, mes frères et sœurs. Parce que c'est par le Saint-Esprit qui nous a révélé l'amour immense de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit, lequel crée aussi le vouloir et le faire, qui nous permet de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et Jésus, alors, avez-vous remarqué, a fait une remarque à ce jeune homme. Il lui a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Cette question peut paraître étonnante. Mais voyez-vous, Jésus sait que les pharisiens n'acceptent pas qu'il se proclame Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et je me permets ici, juste en passant, de dire, pour nous, je l'espère pour tous, Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Et les pharisiens, eux, n'acceptaient pas cela. Et il faisait partie des pharisiens. Quand tout à l'heure je vous disais, il y a quelque chose qui fait que ce jeune homme ressemblait à l'apôtre Paul, c'est que lui aussi, comme Paul, déclare, la loi, je l'ai accomplie. Paul disait, irréprochable par rapport à la loi. Et il s'approche de Jésus en disant, bon maître, alors qu'il ne croit pas en la divinité de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais tu m'appelles bon? Toi, pharisien, tu m'appelles bon? Mais tu sais que seul Dieu est bon. C'était une manière très gentille de la part du Seigneur de lui dire, tu es en contradiction avec toi-même. Mais il veut l'amener sur un terrain très particulier. En fait, il lui dit, « Ah, tu as accompli toute la loi ? Eh bien, c'est simple. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, prends toutes tes richesses, donne-les aux pauvres et viens, suis-moi. » Et c'est là qu'il est bloqué. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Dieu qui occupe la première place dans son cœur. Ce qui occupe la première place dans son cœur, c'est l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est incompatible avec la notion d'amour pour le Seigneur. Il y a un choix à faire. Ou Dieu, ou l'argent. Ou Dieu, ou le monde. Ou Dieu, ou ma propre justice. Mais je ne peux pas mettre ces choses-là ensemble, c'est impossible. Et d'ailleurs, ce jeune homme, tout triste, je souligne cela, tout triste, a dû repartir parce que ce que le Seigneur lui demandait, c'était trop difficile pour lui. Mes amis et mes chers frères et sœurs, impossible de progresser dans la voie que le Seigneur a tracée pour nous si nous n'aimons pas le Seigneur par-dessus tout. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, écoutez le reste, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi et qu'il me suive. Alors, nous allons laisser de côté ce jeune homme. Nous remarquons simplement qu'il y a une grande différence entre lui et Saul de Tarse. L'un est bénéficiaire de la justice de Dieu, sur laquelle nous reviendrons. L'autre, il reste accroché à sa propre justice. J'espère, mes frères et sœurs, que déjà ce point-là est clair pour chacun d'entre nous. Je remercie le Seigneur parce que non seulement il a lavé mon cœur de la souillure du péché, de mes nombreux péchés, mais il est aussi ma justice. Ça veut dire que ce qui produit le péché en moi, cette nature charnelle, ce que la Bible appelle la chair, eh bien, Christ, il l'a crucifié avec lui-même sur la croix. C'est une chose importante. Nous allons cet après-midi assister à un baptême. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, « Ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés, c'est dans la mort de Christ que vous avez été baptisés, devenus une même plante avec lui dans la mort, pour devenir aussi une même plante avec lui dans la puissance de la résurrection. » Ce qui veut dire que, à partir du moment où nous acceptons ce fait, je suis crucifié avec Christ, eh bien, maintenant, je vais pouvoir dépendre de Dieu et de son esprit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et je ne m'inquiète plus. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne m'inquiète plus de ce que je suis par nature. Parce que, comme Paul, et vous tous certainement, vous pouvez faire la même constatation. Nous pouvons dire, mais le bien n'habite pas en nous. Quelquefois, certains se glorifient et on a l'impression qu'ils mettent en évidence ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et en tous les cas, jamais on ne pourra être vraiment heureux, même tout en ayant compris que Christ nous lave par son sang précieux, si nous sommes encore dans cette notion de notre propre justice. Je ne peux pas faire le bien. C'est quand je m'abandonne à lui et que je lui laisse toute la place, qu'alors à ce moment-là, lui, à moi, est capable de faire des choses qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit, maintenant je n'ai qu'un seul désir. C'est vraiment vivre dans cette communion avec le Seigneur et connaître le Seigneur et connaître même la communion à ses souffrances. Mais comment peut-il parler comme ça? Parce qu'il sait que la croix, c'est le seul moyen pour enlever ce qui l'empêche d'être dans une véritable communion avec Dieu. Et quand on a compris que nous sommes crucifiés avec Christ sur la croix, on en a fini avec nous-mêmes. Et même quand le diable vient nous susurrer à l'oreille, « Mais regarde encore ce que tu es. Regarde ce que tu as fait, ce que tu penses, comment tu agis. » Eh bien, nous pouvons lui dire, « Oui, mais Christ vit en moi. C'est Christ qui est ma justice. » Et c'est un repos incroyable pour le chrétien que de connaître cela. J'ai dit tout à l'heure, Jésus se représente comme un berger. Et dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 10, il dit, « Je suis le bon berger. » Il appelle ses brebis et il dit que ceux qui sont de Dieu, ils entendent sa voix. Ils obéissent, ils suivent le Seigneur. En même temps, on s'aperçoit, il appelle et les brebis le suivent. Ils marchent devant. Ça, c'est un exemple pour nous. Quelle est la différence avec les bergers dans les pays occidentaux? Eux, ils agissent sur le côté, utilisant certains instruments. Ils fusillent par derrière. Ils utilisent des chiens, mais Jésus, lui, il marche devant. Il est l'exemple, il est le modèle. Vous savez, mes frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et c'est important que dans notre esprit, ceci soit bien clair. Parce que bien souvent, eh bien, nous attachons les regards sur certaines personnalités, sur certains hommes qui peuvent être des instruments que Dieu utilise aussi pour nous parler, pour nous faire du bien. Mais ils ne sont pas importants. Celui qui est important, c'est Christ. Il est devant. Il est lui notre modèle. Il est lui notre exemple. Et c'est à lui que nous devons regarder. Et d'ailleurs, quand Jésus a parlé de cette manière au jeune homme, les disciples étaient là, ceux qui entouraient le Seigneur, qui le suivaient déjà depuis quelque temps. Ils étaient très surpris, surtout que Jésus a dit, en voyant le jeune homme s'éloigner, « Ah, comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu !» Et bien sûr qu'ils pouvaient comprendre alors, si on est riche, impossible d'être sauvé. C'est pas ça que la Bible dit. Si vous regardez l'exemple de certains hommes dans la Bible, on s'aperçoit qu'ils avaient des biens en abondance. Abraham était un homme riche. J'ai entendu des personnes parler de Job en ces termes. Et ils disent, pauvre comme Job. Mais moi, j'aimerais être pauvre comme Job. Parce que Job était excessivement riche. Et même s'il a tout perdu, Dieu lui a redonné beaucoup plus qu'il avait au préalable. Non, non, mais Jésus a précisé ensuite aux disciples, il leur a dit, non, non, à ceux qui se confient dans leur richesse. Encore une fois, vous voyez, où je me confie en Dieu, où je me confie dans les choses qui sont à ma disposition. Mais les disciples étaient tellement interloqués qu'ils ont dit, mais alors, qui pourra être sauvé? La réponse, vous avez vu, du Seigneur est claire. Impossible aux hommes. Ça veut dire que quand on dit, que dois-je faire pour hériter du salut, on n'est pas dans la bonne voie. Impossible aux hommes. Et quand Jésus dit une chose, nous pouvons être sûrs que c'est certain. Mais c'est possible à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je m'adresse à chacun d'entre vous en particulier. Si en toute sincérité, vous pouvez dire « Je fais partie de la famille de Dieu », c'est parce qu'il y a eu un miracle dans votre vie. C'est Dieu seul qui l'a fait. et personne d'autre. C'est Dieu seul qui a triomphé. Et ça, c'est une chose glorieuse. Mais maintenant, les disciples doivent suivre. Mais Jésus leur dit, c'est pour ça que je vous ai demandé de garder votre Bible ouverte. Il est dit tout de suite après, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, verset 32. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Déjà là, il y a un point intéressant. Le jeune homme, lui, s'est arrêté et il est parti sans accepter de suivre le Seigneur sur le chemin qui lui était proposé. Mais les disciples tremblent, ils ont de la crainte, ils sont troublés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils marchent avec le Seigneur. Le chemin là, il conduit où? Il est dit à Jérusalem. Et nous savons tous que l'issue de ce chemin, eh bien, c'était la croix, c'était le sacrifice. Et même en tremblant, ils ont marché avec lui. Sauf que Jésus a entendu Pierre lui faire une remarque un peu particulière. Il lui a dit, Seigneur, nous, il se comparait avec le jeune homme qui avait cessé de suivre le chemin. Alors il a dit, mais nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Sous-entendu, maintenant, quelle sera notre récompense? Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est triste quand même de constater que beaucoup veulent bien suivre le Seigneur à condition qu'il retire certains avantages. Ils suivent par intérêt, mais non pas par amour. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a beaucoup de personnes qui courent d'église en église, qui vont assister, écouter des conférenciers, qui vont même assister à certains colloques, qui surfent sur Internet pour entendre beaucoup de choses qui sont dites au sujet de Dieu. Mais dans quel but? Toujours d'essayer de retirer quelque chose pour eux, un avantage pour le temps présent. Mais vous savez, si nous espérons que pour le temps présent, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux, nous avons besoin de comprendre que nous avons, nous, une cité qui n'appartient pas à cette terre. Et notre espérance n'est pas ici-bas, notre espérance, c'est là-haut. Jésus a répondu, mais il n'y a personne qui va tout abandonner pour me suivre, qui ne retrouvera au centuple. C'est-à-dire que même si on ne cherche pas particulièrement certains avantages, mais le chrétien, il a un privilège formidable dans le monde. Voyez-vous, nous avons quand même une grande famille. J'ai des frères et des sœurs, et j'ai aussi, au travers de chacun d'entre vous, et pas seulement vous, mais partout ailleurs, des hommes et des femmes qui, dans le fond, appartiennent au Seigneur et qui, d'un seul coup, eh bien, font partie de ma famille. Vous êtes un enfant unique? Ne pleurez plus. Vous avez une grande famille, des frères et des sœurs. Vous savez comment Jésus a parlé? Un jour, il était dans un endroit et quelqu'un est venu pour lui dire, « Jésus, il y a tes frères, tes sœurs, ta maman qui t'attendent dehors. » Et il a dit, « Mais qui sont mes frères, mes sœurs ?» Ce sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, moi je trouve que c'est terrible de voir qu'il y a toujours une recherche d'un intérêt particulier. C'est-à-dire que, avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous ne vivions que pour nous-mêmes. Maintenant, nous connaissons le Seigneur, mais c'est encore pour qu'il nous apporte une bénédiction. Jamais nous ne pensons à ce qu'il attend de nous vis-à-vis de lui. Je vous invite à la maison, tranquillement, à relire l'épître de Paul aux Romains. Et vous allez découvrir une chose. Les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains parlent de tout ce que Dieu fait pour nous et de tout ce que nous avons en Christ, tous les bénéfices dans la foi en Christ que nous pouvons obtenir. Et à partir du chapitre 12, alors vous avez cette expression de Paul, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant. » Maintenant, vous savez ce qu'il a fait pour vous? Maintenant, vous, donnez-vous à Dieu. C'est une chose importante. Le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils ne se sont pas offerts. Si ma vie ne m'appartient plus, elle doit servir à qui? Eh bien à Dieu. Il a racheté mon être entier, mon corps, mon âme, mon esprit lui appartiennent. Et si je lui appartiens, mon seul et unique désir, ce doit être « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» Mais regardez la différence. Ce n'est pas « faire pour être », mais c'est « être pour faire ». Le jeune homme, il a dit « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais quand la vie éternelle, Christ, s'est révélé à Paul, Paul a dit « Seigneur, que dois-je faire ?» Et il a compris qu'il fallait se donner, se livrer. C'est quoi l'adoration? C'est pas simplement la prière, c'est pas seulement la louange, c'est pas simplement dire des choses magnifiques au sujet du Seigneur. C'est aussi s'offrir. Il n'y a pas d'autre main pour le Seigneur que les nôtres. Nous sommes là, entre ses mains, pour accomplir sa volonté. Je partageais, il y a quelque temps, ce que j'ai appris comme cela. Je ne connaissais pas cette chose, mais il semble que pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, il y a eu une église dans laquelle se trouvait une statue qui avait été sculptée par un certain personnage qui avait une grande valeur. Cette statue-là représentait Christ avec ses mains tendues comme pour bénir, disons, les hommes et les femmes. Et quand la guerre est passée par là, cette statue avait été complètement détériorée. Et des jeunes gens sont donnés pour restaurer cette statue, restaurer l'église. Et puis, ils ont fait du mieux possible, sauf que, en ce qui concerne les mains du Seigneur, ils ne pouvaient plus. C'était tellement tout détruit qu'ils ne pouvaient pas refaire les mains du Seigneur. Alors, ils étaient quelque peu troublés. Et le Seigneur était là représenté avec les bras tendus, mais sans les mains. Alors ils ont eu une idée formidable et ils ont mis un écriteau qui subsiste toujours, paraît-il, dans lequel il est écrit « Le Seigneur n'a d'autres mains que les vôtres ». Et finalement, c'est ça. Nous sommes les mains du Seigneur. Nous devons être au service du Seigneur. Je me rappelle d'avoir lu dans l'Épître aux Hébreux que nous sommes appelés à adorer le Seigneur en lui apportant le fruit de lèvres qui confesse son nom. Mais tout de suite après, il est ajouté « Et n'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance ». Ce qui veut dire donc qu'il y a quelque chose à faire, un don. Il faut suivre le Seigneur dans cette voie-là. Évidemment, ça ne se fera pas sans difficulté. C'est la raison pour laquelle là se retrouve la véritable notion de la croix. Moi, je sais que L'évangile qui souvent a été présenté, c'est un évangile où on dit « Viens au Seigneur, tout ira bien, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va faire pour toi des choses formidables ». Mais je sais qu'il fait des choses formidables. C'est vrai que dans ma vie, il a fait des choses formidables. Mais je vais vous dire aussi, le Seigneur a permis aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très agréables pour la chair. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Si en suivant le Seigneur sur le chemin de la croix, eh bien, il y a quelques difficultés. Et surtout, surtout, n'envisage pas de servir le Seigneur en essayant de tirer une gloire personnelle ici-bas sur la terre. Parce qu'alors là, tu serais en dehors du cadre de sa volonté. Et j'en arrive à mon troisième point. Jacques et Jean étaient là. Et ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, nous aimerions que tu fasses quelque chose pour nous. » Et Jésus a dit, « Quoi donc ?» Moi, je suis toujours surpris. Parce que vous savez ce qui est écrit dans la Bible. Il est dit qu'on n'a pas besoin de rendre témoignage au Seigneur de qui que ce soit, parce qu'il sait parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors je veux dire, le Seigneur est vraiment bon, vraiment miséricordieux. Et là, il dit, quoi donc ? Il sait très bien, hein ? D'autant plus que même la maman avait déjà demandé ça, hein, pour Jacques et Jean. Quoi donc ? Nous aimerions être un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Il a ajouté quand même, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Réfléchissons à cela. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Cette coupe-là, nous la connaissons, nous savons ce qu'elle représentait pour le Seigneur. Et puis, d'un seul coup, il a dit, oui, c'est vrai que vous boirez cette coupe-là, mais en ce qui concerne être à ma droite ou à ma gauche, cela n'est réservé qu'à ceux que mon Père a déjà choisi. C'était autre chose. La notion de gloire pour eux, c'était avoir un nom. Je vais faire une comparaison. Jésus, le roi, et Samuel Ferris, le premier ministre. On a l'impression que c'est ça, n'est-ce pas, qu'il voulait. À droite et à gauche, avoir une influence, avoir comme cela une autorité. Quelle autorité ? L'autorité qu'un homme peut exercer, c'est de l'autoritarisme. La véritable autorité, elle vient d'en haut par le Saint-Esprit, c'est l'autorité de la parole de Dieu et l'autorité d'un exemple. L'exemple parle plus qu'autre chose. Et c'est ainsi que le Seigneur a remis en place certaines choses. Alors je reviens maintenant à l'apôtre Paul. Comment a-t-il terminé sa course ici-bas sur la terre ? Juste là, juste au premier rang, là, tout à l'heure, d'un seul coup m'est venue cette pensée et j'ai retrouvé ce passage qui se trouve dans l'épître de Timothée où Paul écrit à ce serviteur de Dieu. Et regardez, il est en prison. Il n'y a vraiment rien de glorieux, n'est-ce pas, de se trouver comme cela en prison. Il dit, pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'espère que nous faisons partie de ceux-là. Et il continue en disant, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite, en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais où est la gloire pour cet homme qui a créé tellement d'églises, qui a amené au Seigneur tellement d'âmes, qui a été un modèle, un exemple pour les serviteurs de Dieu. Mais où est la gloire? Dans un cachot, subissant le froid, abandonné de certaines personnes, en réclamant un manteau pour le couvrir. Où est la gloire? Je crois que vous comprenez, n'est-ce pas, frères et sœurs? La gloire pour lui, c'était Christ. Et il savait bien qu'il servait déjà de libation. Mais peu importe, lui, il n'attendait rien des hommes. La couronne, il attendait du Seigneur. Et le jour, nous la recevrons du Seigneur, si nous nous trouvons dans ces conditions-là. Mais qu'en ferons-nous? Comme le livre de l'Apocalypse nous le dit, nous la jetterons aux pieds du Seigneur pour lui dire, toi seul es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Conclusion. Un jeune homme s'est détourné de Christ et n'a pas accepté de suivre le chemin du renoncement à lui-même. Les disciples ont suivi en tremblant, mais en étant en compagnie du Seigneur. Et le Seigneur a fait son œuvre en eux, nous le savons. Car Dieu est fidèle et l'œuvre qu'il commence en nous, il la rend parfaite. Un homme, Paul, a suivi avec joie malgré les tribulations. Et regardez l'opposé. L'un est parti tout triste, l'autre termine dans les souffrances. Mais il dit, réjouissez-vous avec une joie ineffable. Oh, que le Seigneur nous permette de terminer ainsi. Que Dieu vous bénisse. Et je vais laisser le frère terminer.